réagir à ce qui a été dit.
Réagir à ce qui a été dit, oui, d'une certaine manière, mais en fonction essentiellement de ce que je connais. Donc, une question que je me suis posée et qui entre peut-être dans votre questionnement, c'est concernant la culpabilité des prévenus. Donc, j'ai assisté à beaucoup de procès, environ 250 procès, et j'ai regardé un petit peu qui s'excusait et qui ne s'excusait pas. Et vous serez étonné de voir que ça répond assez bien au stéréotype, à savoir qu'un prévenu belge a souvent tendance à présenter ses excuses dans le cadre de son procès, alors que un prévenu nord-africain assez rarement dans les faits. Alors, par contre, après, j'ai interrogé pas mal d'anciens détenus et je leur ai demandé, mais est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à ce que vous avez fait? Et donc la réponse à ça était assez intéressante parce que à peu près personne ne se sent coupable de ce qu'il a fait, ni les Belges ni les Nord-Africains par ailleurs, parce que s'ils le font, c'est qu'ils ont déjà une justification morale. Donc ce que vous entendez souvent quand vous leur posez la question, c'est « Oui, je vendais de la drogue, oui, mais l'État vend de l'alcool et des cigarettes, je vois pourquoi moi je ne peux pas vendre de la drogue, j'ai aussi le droit de faire de l'argent comme l'État. » Voilà une justification, par exemple. Et donc vendre de la drogue est déjà justifié par un principe moral. Et les cas où il y a de la culpabilité qui se dégageait, c'est soit parce que quelque chose a mal tourné, donc par exemple la personne voulait voler parce qu'elle a besoin de voler, parce qu'elle a besoin de quelque chose, donc voilà, ça, il n'y a pas de problème avec ça pour elle, mais ça a mal tourné, il y a eu violence, ça elle ne voulait pas du tout et elle s'en veut beaucoup pour la violence qui n'était pas du tout préméditée. Là, sentiment de culpabilité. Autre exemple, une personne a fait du trafic de drogue, vendu de la drogue, même à des jeunes personnes, etc., s'en veut beaucoup, mais à l'époque où il commettait les faits, il était lui-même drogué, avait besoin de sa drogue, et donc voilà pourquoi maintenant il s'en veut, mais qu'à l'époque il l'a fait. Donc, quand il y a ce genre de choses qui derrière, il peut éventuellement avoir de la culpabilité. Alors, dernière zone de culpabilité qu'on peut observer dans ce genre de demande, c'est la culpabilité après la transgression. Donc non pas pour l'effet transgressif, mais bien parce que maintenant, la famille du détenu rencontre de grosses difficultés financières, du fait qu'il est en prison, etc. Pour ça, il y a de la culpabilité qui va se développer dans un second temps. Mais la culpabilité pour la transgression, lorsque la transgression est préméditée, etc., c'est bien de la demander, on peut éventuellement l'obtenir, mais en réalité, souvent elle n'est pas là. Donc alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et l'autre partie un petit peu délicate, c'est quid du langage. Se sentir coupable et s'excuser, c'est pas quelque chose de facile. Il faut savoir comment le faire, il faut savoir quand le faire, il faut savoir quel mot utiliser. C'est pas du tout une évidence. Et d'ailleurs, une corrélation assez forte dans ce qu'on observait dans les procès, c'est que plus le prévenu avait des difficultés de langage, moins probablement il allait s'excuser. Donc simplement parce qu'il n'y arrive pas. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez dit, on prend les émotions en considération, et quelque part c'est normal de les prendre en considération. C'est sûr que si on sent chez un prévenu qu'il n'a pas envie de recommencer, qu'il s'en veut tout à fait, etc., pourquoi ne pas le prendre en considération finalement? Puisqu'un objectif, c'est quand même de s'assurer que quelle que soit la peine, la récidive n'arrive pas. Eh bien, d'une part, il y a ce fait que la culpabilité est rarement là, et d'autre part, il y a le fait que les conclusions qu'on peut tirer peuvent être influencées par des éléments comme l'ethnicité, et là, ça reste un problème. Donc effectivement, je pense que je vous rejoins quand vous dites que des formations à ce type de dynamique, ça peut avoir son importance, parce qu'effectivement, il y a parfois des éléments qu'on ne soupçonne absolument pas. Alors, encore quelques résultats qui pourraient éventuellement vous intéresser, c'est par exemple tous les travaux d'Ambadi, sur ce qu'on appelle les thin slices. C'est le fait que, quand on se fait une impression de quelqu'un, ça va en fait très vite. Dès les premiers instants, dès les 2-3 premières minutes, une formation d'impression réalisée, et c'est extrêmement difficile de la modifier dans un second temps. Donc il y a une sorte d'empreinte comme ça de la personne qu'on se fait, et souvent c'est très stable. Donc qu'est-ce qui pourrait faire que un juge ou un magistrat ne soit pas soumis à ce genre de dynamique et puisse revoir son jugement? Je pense que vous avez cité pas mal d'armes contre ça, notamment l'aspect temporel. Donc le jugement est remis bien après, il y a le temps d'y réfléchir, ça se passe essentiellement sur dossier, on a le temps de laisser refroidir. Ça, je pense que ce sont des mécanismes qui sont mis en place et qui ont certainement une efficacité, mais c'est difficile de dire laquelle.
Ils ne suffisent pas.
Et peut-être qu'ils ne suffisent pas.
On le voit à Razafou qu'ils ne suffisent pas.
Voilà. Mais, oui, enfin. Voilà. Alors, j'ai aussi interrogé quelques magistrats par rapport à ces résultats pour voir un peu ce qu'ils en pensaient. Alors, je peux vous donner 2-3 témoignages qui m'ont intéressé. Celle d'un procureur qui m'a dit, ben voilà, moi je me souviens d'un cas où un prévenu avait jeté un cocktail Molotov dans un bar. Un fait relativement grave, hein. C'est risqué, on ne jette pas des cocktails Molotov dans les bars. Et donc, quand il est arrivé, il était complètement décomposé, il s'en voulait, il se rendait compte des implications, notamment sur sa famille, etc. Enfin, il était catastrophé. Et il a fini par être acquitté. Le procureur m'a dit, le fait de le voir comme ça, ça a vraiment joué un rôle. Mais ceci dit, si j'ai pu l'acquitter, c'est parce qu'il y avait des raisons techniques et juridiques, etc., qui m'ont permis de le faire. Mais c'est sûr que s'il était arrivé en disant « bah oui, j'ai jeté un cocktail Molotov, hein, c'était gay », l'issue de son procès aurait fort probablement été différente quand même. Donc voilà, ça c'est un témoignage. Témoignage d'une juge aussi qui m'a dit « mais quelque part, effectivement, je dois reconnaître que récemment, j'ai vu un prévenu marocain qui s'est effondré en pleurs. » Et je me suis dit « mais... alors qu'il a l'air tellement fort, tellement costaud, s'effondrer en pleurs comme ça devant tout le monde, alors qu'il a sa fierté qui est derrière lui, c'est quand même, enfin, c'est vraiment qu'il est touché, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. » Et donc ça a réveillé un sentiment de sympathie chez elle, dont elle ne sait pas les conséquences sur la peine, mais elle dit, par contre, j'ai déjà eu plusieurs fois des gitans, et les gitans, pour elle, les mêmes pleurs qu'on les fait inverse parce qu'il y a toute la famille derrière qui pleure avec et que ça elle ressent ça beaucoup plus comme un comportement manipulatoire. Et donc voilà, ce genre de dimension émotionnelle, ben ça, elle reconnaissait que ça pouvait la toucher tout en ne sachant pas le quantifier, évidemment. Et alors à l'inverse, j'ai eu un avocat qui lui m'a dit, ben moi, je ne compterais pas trop sur les émotions et les sentiments pour amener la clémence du juge. Si j'en viens à parler de la personnalité de mon client lors d'un jugement, c'est vraiment que j'ai épuisé toutes les autres armes juridiques qui m'étaient offertes, parce qu'en général, ça n'a qu'un effet tout à fait marginal dans le jugement. Donc vous voyez, voilà, j'ai eu aussi un autre magistrat qui me disait « Oui, mais enfin, bon, les juges, les procureurs, etc., ils ont frotté leur cuir sur les bancs des tribunaux depuis des années. Pensez bien qu'ils ne se laissent plus avoir par ce genre de démonstration émotionnelle, etc. » Donc voilà, il y a vraiment à boire et à manger dans le ressenti des magistrats. Et au total, en pratique, franchement, je ne sais pas.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Oui, et puis après... moi, je trouve ça assez intéressant de dire qu'il y a besoin d'une formation psychologique pour les magistrats, mais je pense que ça ne se résume pas spécialement aux stéréotypes. Je pense que, en soi, ce que vous dites, il faut le savoir. Je veux dire, il y a une réaction, vous dites, par rapport à la magistrate qui s'est dit « Ah oui, ce type a pleuré devant moi, etc., ça m'a touchée ». Je pense que c'est justement une des questions où on parlait de Platon tout à l'heure en cours juste avant, sur le fait qu'il faut supprimer toutes les émotions du jugement pénal, etc., mais justement pas. Je pense qu'il faut s'en rendre compte et travailler là-dessus et savoir qu'effectivement on est tous humains et qu'on a tous des sentiments, etc., et savoir ce que ça signifie pour nous, pour que vis-à-vis de situations comme ça, comme la juge, se rend compte que bah oui, ça me touche, après ce que j'en fais, c'est autre chose, mais savoir qu'on a des sentiments et travailler sur ces sentiments, c'est une chose importante à faire dans tout ce qui est magistrat. Je pense que c'est un truc à prendre en compte, et pas seulement sur les stéréotypes, mais sur tout sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne.
Ce que vous dites est tout à fait exact, et pour répondre à M. Lez, en tout cas pour essayer, je dirais que l'expérience fait que, j'espère, on ne tombera pas dans des pièges grossiers qu'on nous tend, toute une famille qui pleure, qui s'arrête au même moment, qui recommence au même moment, et encore, il faut se méfier de l'interprétation qu'on fait de tout ça. Mais je crois que les plus gros pièges, les plus insidieux, ce sont nos idées préconçues. Ce que nous attendons d'un suspect. Et là, je pense que si vous avez parlé tout à l'heure de repentir, c'est parce que nous vivons encore dans une société relativement chrétienne. La psychologie peut apporter beaucoup de choses. C'est la psychologie expérimentale, je pense, ce domaine-là. Apporte beaucoup aux États-Unis, aux juges qui s'en préoccupent. Nous, on ne s'en préoccupe pas. J'ai l'impression qu'on apprendrait beaucoup sur nous-mêmes. Franchement, sans avoir théorisé tout ça, j'y pense maintenant en vous entendant, un coupable qui dirait « je reconnais avoir blessé grièvement telle personne », mais qui n'afficherait pas, alors je ne dis pas qu'il doit se lamenter, je ne dis pas qu'il doit pleurer pendant 2 heures, mais qui n'afficherait pas le moindre repentir, qui ne présenterait pas les moindres excuses, qui serait totalement neutre par rapport à cette description, je pense que moi, issu de la civilisation chrétienne dont j'ai dit un mot tout à l'heure, ça me choquerait. Inconsciemment, peut-être. Mais je pense aussi qu'une formation pourrait m'aider à ce que ça ne me choque pas. Parce que je n'attends pas nécessairement du repentir. On est rassuré quand on dit « mon client ne le fera plus ». Ah, voilà, ça, il fallait qu'il le dise, il l'a dit. C'est l'avocat qui le dit. Bon, et puis où le gars le dit de manière peut-être aussi préfabriquée que la famille de Gitan dont vous parliez tout à l'heure et qui pleure derrière le papa poursuivi. Nous avons des idées préconçues. Je pense, on peut le dire ici, bien sûr, on peut tout dire ici, je pense que dans l'esprit de nombreux magistrats, est-ce vrai, est-ce faux, monsieur Lais, vous allez nous le dire, suspects d'origine nord-africaine, c'est pourtant une région du monde que j'aime beaucoup et que je visite très souvent et que je connais bien, n'avouent jamais. Pourquoi ? On se le dit ou on tente de se l'expliquer entre magistrats, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on aurait bien fait de regarder plus loin que le bout de notre nez, parce que si on avoue, cela provoque un rejet familial terrible. Si on avoue, finalement, on n'est plus l'homme religieux que l'on doit être, et qui pense, comme toute la famille, que le véritable juge est Dieu et pas l'homme. Donc, nous pensons, je n'ai pas eu de séminaire ou d'échange de vues à ce propos, mais c'est une idée qui circule, qu'un homme d'origine nord-africaine ou qu'une femme d'origine nord-africaine avouera beaucoup plus difficilement qu'un autre, parce que cela s'explique pour les raisons sociales et religieuses que je vous ai dites. Est-ce vrai ?
Alors, est-ce vrai ou faux, c'est toujours difficile à répondre à ça.
Même contre l'évidence.
Mais ceci dit, il y a plusieurs choses autour du « on n'avoue jamais ». D'abord, j'ai essayé de mesurer ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de mesurer le sentiment de culpabilité, d'abord, entre Marocains, Turcs et Belges. Et à ce niveau-là, il faut vraiment distinguer, quand on parle de Nord-Africains, c'est une généralité qui n'a pas lieu d'être, en fait. Parce que, par exemple, vous allez dire à Turquie, c'est pas des Nord-Africains, mais bon, il y a beaucoup de Turcs ici en Belgique et de Marocains. Ce sont les deux grandes communautés musulmanes qui fréquentent notre pays. Et en fait, ils sont à distinguer complètement. Donc, par exemple, les Turcs, effectivement, ont très fort ce que vous décrivez là. Il est tout à fait exclu d'avouer ça. Qu'on a commis le fait. Les Marocains, assez bien aussi, mais par contre, ils se sentent beaucoup plus coupables. C'est une tendance beaucoup plus forte que chez les Turcs, dans ce que j'ai eu dans mon échantillon, en tout cas. Alors, dans le « on n'avoue jamais », il y a plusieurs difficultés. Il y a le fait que, ben voilà, on ne se sent pas coupable. Il y a aussi le fait que « avouer », ben ça veut dire qu'on a commis le fait. Donc il y a quand même un aveu de culpabilité de fait, là derrière, qui est à distinguer du sentiment de culpabilité qu'on pourrait avoir. Et ça, dans certains pays, c'est légiféré. Par exemple, je ne pense pas me tromper en disant qu'en Angleterre, si vous avez commis le fait, et que vous admettez que vous avez commis le fait, donc là, on n'est pas dans le sentiment de culpabilité, on est dans l'aveu de la culpabilité de fait, tout à fait autre chose. Là, on peut réduire la peine. Pourquoi est-ce qu'on réduit la peine et que c'est prévu dans la loi? Mais parce que ça facilite beaucoup le travail, tout simplement. Les magistrats, ils ne doivent plus aller torturer les témoins pendant des heures pour leur faire, pour être bien sûr que ce qu'ils ont vu est ce qu'ils ont vu, etc. Ça, la procédure est allégée, ça peut être plus rapide. Enfin, à tous les niveaux, ça aide. Et donc, pour cette facilitation-là, il est prévu dans la loi de réduire la peine pour le prévenu qui avoue sa culpabilité de fait. Je pense qu'en Belgique, ça n'existe pas. Si...
Pas encore. C'est dans le programme de gouvernement la mise en place de cette procédure de plea bargaining, où on peut négocier une peine. Négocier, généralement, c'est moins que ce qui est prévu par la procédure normale. Mais une des conditions, c'est évidemment
d'avouer,
d'évacuer le problème de la culpabilité, ça c'est sûr.
C'est ça. Donc voilà, il y a ça, c'est une partie de réponse. Et alors, je voulais quand même soulever un petit point par rapport à la question que vous avez posée, mademoiselle. C'est que, bien sûr, on essaye d'enlever toutes ces émotions pour décider. Sauf qu'au bout du compte, in fine, quand vous regardez notamment des personnes qui ont eu le siège des émotions endommagé par un traumatisme cervical, donc, par exemple Nicolas Gage qui a eu un éclat de métal qui lui a transpercé l'hypothalamus et le thalamus, quelqu'un qui était vivant mais qui ne ressentait plus aucune émotion, donc il savait lister des arguments mais était tout à fait incapable de décider quoi que ce soit, rien. Donc in fine, le processus décisionnel, il est quand même conditionnel aux émotions. Il faut arriver au bout du compte à je suis pour ou je suis contre, j'aime ou je n'aime pas. Il y a toujours une composante émotionnelle dans n'importe quelle décision. Et donc voilà. Alors maintenant que les décisions sont influencées par une expression telle que d'émotions fortes comme la colère, une émotion négative, ou comme la joie, une émotion positive, ça oui. Mais les émotions, on ne sortira pas de là.
Juste peut-être céder un peu plus la parole, parce qu'il y avait une question, peut-être d'autres encore. Je voulais vous demander en quoi vous pensez que les résultats, ceux que vous avez obtenus, parlent de la justice, sont applicables à la justice. Donc vous êtes adressé à Monsieur Tout-le-Monde, et Monsieur Tout-le-Monde, des gens très jeunes, sans aucune expérience professionnelle et sans aucune expérience de cas, de fait, de juge. Les juges ont nécessairement une expérience en certain âge, et le juge se construit extraordinairement par l'expérience dans le fait qu'on ne peut rien dire. Un juge ne peut rien dire sans avoir un fait précis, un cas. Et en quoi ces résultats sont-ils, selon vous, pertinents pour savoir quel est le rapport entre la justice et les émotions ?
Pour juger les juges.
Alors, la réponse, je pense que j'en ai parlé en fin de mon intervention, la réponse c'est je ne sais pas. Cependant, ce qu'il y a quand même, c'est qu'il y a toute une série de processus cognitifs qui sont mis en place et qui ont quand même l'air assez automatiques. Par exemple, l'activation d'un stéréotype, on ne peut rien faire contre. Les stéréotypes culturels, on ne peut rien faire contre. Donc, savoir à quel point ça influence réellement un magistrat, je le redis, je ne sais pas. Et donc, mais ce sont des processus qui, en tout cas, existent, même chez les magistrats. Alors, est-ce qu'ils savent le contrôler? Est-ce que tout l'appareil judiciaire permet, ou légal, ou pénal, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais est-ce que ça permet de complètement maîtriser ces effets-là? C'est plus à vous de me le dire qu'à moi, mais...
La question, l'importance des sentiments est certaine, la nécessité de connaître ces sentiments et ces stéréotypes est certaine, et l'utilité, l'efficacité des sentiments, d'utiliser les sentiments, est certaine. Mais ma question porte sur ce résultat-là. On peut se dire que le fait que quelqu'un qui se sent très coupable, s'excuse beaucoup et est tout à fait d'accord d'être jugé, est très rassurant, notamment pour quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui ne connaît pas la réalité, et que donc... Plus un étudiant, quelqu'un de très jeune, que un praticien qui est nécessairement moins jeune et quand même un peu expérimenté, sera très influencé dans ce sens-là. Donc c'était le caractère paradoxal, parce que on a des informations différentes à l'égard des Marocains ou des Belges, évidemment, mais quelle est la mesure de ces sentiments, quelles sont les conséquences de cela? En quoi les résultats qu'on voit disent quelque chose de
Ben non, j'ai vraiment pas de, Pour ça, il faudrait que j'ai 200 avocats, 200 procureurs, 200 juges qui veulent bien se prêter au jeu. Donc...
Je voulais bien dire une petite chose, j'espère en tout cas. Parce qu'on a parlé dans l'un de vos cas de l'avocat qui dit « moi je fais du droit ». Je ne parle des sentiments que si vraiment en droit ça ne va pas du tout. Je peux comprendre ça aussi. Mais j'espère en tout cas que malgré tous nos stéréotypes, on apprend aujourd'hui qu'on en a, que malgré tous nos stéréotypes, le juge ne les fait pas jouer lorsqu'on aborde une question de droit déterminante, même déterminante. Par exemple, une question de prescription. Le crime est horrible, vous avez soulevé ce critère tout à l'heure. Le crime est horrible, mais il est prescrit. Alors, s'il est prescrit, c'est le résultat d'un calcul tout à fait théorique. J'espère que dans toutes ces questions de procédure, de mécanique, le juge est capable, au moins, de ne pas faire rentrer ces stéréotypes. Après, pour la détermination de la culpabilité, pour l'interprétation d'un témoignage, pour l'interprétation des aveux ou des non-aveux, pour l'interprétation de la contrition, etc., etc., joue tout ce que l'on vient de dire. J'espère que les juges, que vous n'avez pas d'expérience en ce sens, ne font pas rentrer tous leurs stéréotypes ou une partie d'entre eux lorsqu'il s'agit simplement d'aborder des questions purement techniques, même si elles sont déterminantes. Ça.
Allez-y.
J'espère.
Je pense en tout cas que le droit, il faudrait quand même, en tant qu'étudiant, je suis étudiante en droit, actuellement en master, je trouve dommage qu'on ait justement très peu de cours de psychologie, de sociologie que je ressens en ce moment, à l'époque où on est. Enfin, je viens du Luxembourg, donc c'est un petit pays où on n'a pas encore énormément de. Enfin, on a des étrangers, mais ça se sent beaucoup moins que dans une ville comme Bruxelles. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Donc, j'apprends déjà beaucoup de choses en vivant dans une ville comme ici, en fréquentant des gens d'origine beaucoup plus diverse. Et je trouve que pour mon métier d'avocat ou de juge, peu importe, après, c'est très important d'avoir des notions de beaucoup d'autres cultures, en fait. Et de sociologie, de savoir comment fonctionne la société, comment fonctionnent certaines personnes, et que leur origine, leur culture, forcément ça les influence dans leur comportement personnel, parce qu'ils ne sont pas que face à un juge, comme vous dites, il y a aussi la famille derrière, et tout un entourage qui perçoit également les conséquences de leurs actes. Et je trouve que ce sont des options qui me manquent énormément, en fait, dans mon cursus académique, et je trouve que c'est des choses qu'on pourrait faire évoluer, en fait. Surtout aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment nécessaire.
Oui, c'est vrai. On comprend. Il y a beaucoup de choses pour ouvrir l'esprit au juge. Il y a ça, tout ce dont vous dites, la psychologie expérimentale. Et il y a des publications américaines destinées aux juges qui sont très intéressantes. Très, très intéressantes. Sur les lieux communs avec lesquels nous jugeons. On ne parle même plus de lieux communs ethniques, mais un policier, un homme de loi, un homme qui s'occupe de sécurité, qui est témoin d'un fait, est évidemment un bien meilleur témoin qu'un assureur ou qu'un médecin. C'est sûr, c'est faux, complètement faux. Les juges fonctionnent avec ce genre de stéréotypes. Donc la psychologie expérimentale peut beaucoup nous aider. Mais à côté de ça, il n'y a pas que la psychologie expérimentale. Il y a aussi la rencontre de la différence, la rencontre d'autres cultures, la sociologie, les voyages, bien sûr.
Parce que je pense que ce qui fait aussi parfois des stéréotypes, et qu'ils sont inconscients, ils ne s'en servent pas. Enfin, peut-être, mais je pense que on est chacun un minimum, si on n'est pas trop hypocrite, conscient, qu'on a chacun des stéréotypes envers, pas forcément des étrangers, mais d'autres personnes où c'est. Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit forcément toujours inconscient.
Ce ne sont pas les stéréotypes qui sont inconscients, c'est leur activation qui est automatique. Donc on n'a pas le choix que d'activer le stéréotype. C'est surtout ça.
On ne connaît pas la différence, c'est là que Il y avait une question ici,
j'aurais bien une question aussi.
Et Annemie aussi. Mais on fait peut-être les questions et puis vous répondez parce que peut-être elles vont se croiser. D'accord ? Allez-y, puis Annemie.
En fait, j'ai une question à M. Mandou par rapport au cas de la cour d'assises où on a quand même un jury de citoyens donc non professionnels entre qui est remis quand même une décision assez importante, vu que c'est généralement les cas les plus graves qui vont en cour d'assises. Et donc justement, ce jury ne bénéficie pas de la formation psychologique dont vous parliez par rapport au juge. Et donc, est-ce que vous ne croyez pas que le système de la cour d'assises est un peu un échec face à cet objectif d'avoir justement un juge impartial et une justice un peu dégagée des émotions?
La réponse est oui. Ma réponse est oui.
On va peut-être rebondir, mais on fait plusieurs questions comme ça à Nomi et vous pouvez répondre.
Mais moi, c'était plutôt une réflexion. Cette discussion me fait super penser au colloque du juge est une femme. Je ne sais pas si vous êtes venu, mais donc on s'est posé la question de la féminisation de la magistrature et des conséquences sur le jugement. Et notamment qu'un violeur jugé par une femme risquerait une peine différente d'un violeur jugé par un gros macho, ou bien. Enfin bref, ce genre de questions-là, et on s'était posé la question finalement, puisque les stéréotypes sont difficilement contrôlables, est-ce qu'il ne faut pas les varier et finir par avoir dans les magistratures des gros machos, des femmes, des arabes, des noirs, des homosexuels, des pauvres, si possible. Et comme ça, au moins, on aura une variation de stéréotypes, et pas ceux du blanc, d'une classe moyenne. Comme aux États-Unis, en fait. Et comme un peu, ça rejoint ce que madame disait, un jury populaire où là, normalement, on a un peu de tout.
On n'a pas du tout un peu de tout dans le jury populaire. Hein. On n'a pas du tout un peu de tout.
Non.
Pas du tout.
Et donc, je trouve que ça revient un peu à ça de se poser ces questions-là.
Ah, oui, bonne question.
C'était posé à ce moment-là. Les stéréotypes, on peut difficilement les éviter. Mm-hmm. Et même si on se contrôle et que si moi j'étais magistrate, sans doute que je serais plus laxiste avec les pauvres parce que c'est ma tendance politique. Enfin bref, on peut faire ce qu'on veut, on aura quand même une tendance. Donc il faudrait peut-être varier les magistrats. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un peu provocateur. Mais...
Moi je me demande dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas surtout tendre vers une tentative de prise en compte de tous ces stéréotypes et au contraire d'informer les magistrats sur les processus cognitifs qui se mettent en place et les sensibiliser sur le fait qu'il y a certaines choses automatiques qu'on ne maîtrise pas, de là après à aller faire varier toutes les opinions politiques et que finalement ça dépend un peu de la chance de chacun sur qui il tombe. Je me demande déjà dans quelle mesure c'est pas le cas, tout simplement parce que c'est pas parce que les stéréotypes et le contenu des stéréotypes, ils changent beaucoup. Ils y adhèrent. Hein, y a quand même donc en général, quand un stéréotype existe, il y a notamment l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que non seulement on connaît le stéréotype à propos de son groupe, et que parfois on adopte des comportements qui favorisent le maintien de ce stéréotype. Par exemple, des expériences qui montrent ça, c'est notamment sur les femmes et les mathématiques. Donc il y a un stéréotype négatif qui porte sur les femmes, qui disent qu'elles sont moins bonnes en mathématiques que les hommes. Et si vous activez ce stéréotype, si vous donnez un questionnaire identique à deux groupes de femmes, que dans un cas on parle d'une mesure d'aptitude intellectuelle et dans un autre cas on parle d'un test de mathématiques, eh bien, c'est le même test, exactement le même. Les femmes à qui on a dit que c'était un test mathématique vont faire une nettement moins bonne moyenne que celles à qui on a dit que c'est un test d'aptitude cognitive. Rien que parce qu'on a activé le stéréotype. Donc, vous voyez que même en appartenant au groupe, et quelque part en étant contre le stéréotype, et on a quand même tendance à le confirmer d'une manière ou d'une autre.
Mais justement, c'est bien ce que je dis.
Pardon ?
Confirme ce que je dis, donc il vaut mieux varier les stéréotypes que supposer qu'on puisse les éviter. Moi, en tout cas, pour une simple question, et puis j'arrête, l'égalité homme-femme dans un monde intellectuel qui est au courant que c'est un problème, qu'il y a le plafond vert, etc. Là où je suis, je peux te dire qu'ils ont beau le savoir, l'écrire dans leur programme politique, dans leur rapport d'activité, tout ce que tu veux, quand la question se pose concrètement, ça revient au vert. Et s'il n'y a pas quelqu'un conscientisé, homme ou femme, par cette question-là, pour dire est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, c'est spontané, quoi.
Oui, il faudrait créer une défense possible.
Donc, je repasse la parole, je voulais poser une question, ça a l'air de la poser en
Non, mais vas-y, je ne suis pas du tout d'accord avec Annemie.
Oui.
Parce que moi, s'il faut qu'un homme africain, que je vis un homme africain, que les femmes.
Ah non, non, non.
Et que, ou qu'il faudra des enfants pour faire du droit familial, on cloisonne et justement.
Non, je dis juste qu'il faut varier les stéréotypes. Je ne dis pas qu'un Nord-Africain doit juger un Nord-Africain, non, il pourrait juger un bon
Oui.
Vous n'avez
pas les
réserves.
Non,
non. C'est varié, les stéréotypes.
Après, ta question, j'ai quand même quelque chose.
Alors, d'accord.
Surtout ça.
Non, non, quand même.
Il y avait une question dans le fond.
Je voulais savoir s'il y avait des notions de communauté d'échange professionnel en métier du droit. Je suis étranger,
oui.
Je suis né en Belgique, mais j'ai vécu ailleurs, au Québec et en France notamment. Et au Québec, il y a des groupes de parole, de soutien. On n'y apprend pas quelque chose, on apprend à réfléchir.
Il y a non seulement, comment dirais-je, spontané, en dehors des structures officielles, mais il y a aussi à l'intérieur des structures officielles, dans les programmes de formation des magistrats, des journées qui sont consacrées à la réflexion, par type de magistrat, pratiquant le même type de droit. Et là, le programme n'est pas théorique. Et de manière générale, pardon ?
C'est peut-être plus important. Mais...
C'est aussi important, parce qu'il faut les deux, évidemment. On est là pour appliquer la loi qui est, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est évidemment une condition aussi d'une bonne justice, la loi qui est démocratiquement votée par un Parlement, et pour ça, il faut la connaître. Donc, tout l'apprentissage théorique est très important. La communication est très importante, la gestion du temps, etc. On l'a cité tout à l'heure. Mais l'apprentissage, la connaissance de nos stéréotypes, pour essayer de les voir, de les mettre à distance et de les contrer si possible, c'est aussi important. Et pour répondre à Annemie, je dirais que pour moi, il n'y a qu'un pari à faire. C'est le pari de l'éducation, c'est le pari de l'ouverture, c'est le pari de la rencontre de l'autre. Et c'est le pari de la rencontre, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, des autres sciences, comme nous avons appris sur nous en une heure. Il ne faut pas imaginer, on peut imaginer combien on apprendrait en 3 jours de formation. Ce serait très important. Les Américains en ont conscience. C'est une branche de la psychologie qui est importante et les juges s'y intéressent. Pas trop nous, la psychologie expérimentale. Toute une série de stéréotypes, je le répète, qui ne sont pas culturels, sur lesquels on fonctionne. Notamment, enfin, combien de fois n'ai-je pas entendu et combien de fois je n'entends pas encore actuellement, oui, mais monsieur, cette victime, elle crevait de trouille. C'est un moment exceptionnel de son existence. Elle vous a photographié. Vous vous rendez bien compte que dans des moments comme cela, on s'en souvient. C'est tout le contraire. La psychologie expérimentale démontre que c'est le contraire. C'est dans des moments comme ça qu'on ne photographie rien, qu'on se souvient mal. Je pense que les juges pensent encore ce que je viens de vous dire.
Alors ça, c'est, si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on parle toujours, on parle ici depuis le début d'émotions et de stéréotypes, etc., mais il y a des boulevards de une formation sur les stéréotypes, c'est bien, mais il y a des tas d'autres formations à mettre en place. Par exemple, ce à quoi vous faites référence, ce sont tous les travaux de Loftus, me semble-t-il, qui est une psychologue qui a regardé comment se passaient les témoignages. Et effectivement, ne fût-ce que la manière dont on pose les questions. Si vous demandez, vous faites voir quelque chose de très simple, un match de basket à des gens, et puis vous posez la question, le joueur là, il était grand comment ? Par rapport à d'autres personnes où vous dites qu'il était petit comment ? Ben vous avez 20 cm de différence dans l'estimation de la taille du basketteur. Si vous voyez une scène assez compliquée et assez dynamique, par exemple un crash routier, et que dans un cas vous dites, ben voilà, la personne a grillé le triangle renversé et en tournant à droite, et il y a eu un accident, par rapport à la personne a tourné à droite et il y a eu un accident. Et puis vous demandez aux gens, y avait-il un triangle renversé ? Ben, quand vous le signalez, et que même quelques jours après, vous lui demandez est-ce qu'il y avait ce triangle renversé, ils vont beaucoup, tous vont se souvenir que oui, il y en avait un, ben, vous l'avez mentionné dans le truc avant, tandis que si vous ne le mentionnez pas, quelques jours après, les gens vont dire, non, il n'y a pas de triangle renversé là-dedans. Donc ça veut dire que la manière même dont les juges, les magistrats, donc, présentent la situation, peut influencer le témoignage. De mille manières différentes. Et des résultats comme ça, il y en a à l'appel dans tous les sens. Hein, donc,
ça, on en prend, je pense, on commence à en prendre bien conscience, et on a des formations à l'interrogatoire qui tiennent compte d'une partie de ce que vous dites.
Moi, j'ai une question qui va dans le même sens de la question d'un ami sur l'origine, enfin, c'est-à-dire parler du genre du juge éventuellement, mais sur à ce moment-là l'origine ethnique, parce que c'est une variable que vous avez considérée ce qui concerne le prévenu. Mais je ne sais pas, dans votre échantillon représentatif, est-ce que c'est une variable que vous avez étudiée par rapport aux étudiants donc, que vous avez pris dans le cadre de votre échantillon, on ne va pas savoir si c'était des étudiants belges à la 32e génération passée, ou si précisément c'était des étudiants qui étaient aussi issus de l'immigration, de leurs parents, de leurs grands-parents, peu importe à quel degré, et si éventuellement ça avait une influence, parce que j'imagine que ça pourrait aussi avoir des conséquences inverses à celles qu'on pourrait imaginer, par exemple que le juge qui serait issu de migration sanctionnerait encore de manière plus forte le comportement d'un prévenu issu de migration en considérant que lui a réalisé le processus d'intégration que le prévenu n'aurait pas réalisé par exemple. Et est-ce que ça vous avez étudié dans le cadre de votre expérience.
Alors pour répondre à votre question, d'une part tout l'échantillon que vous avez vu là, j'ai éliminé tout simplement tous les sujets d'origine nord-africaine. Je ne suis pas remonté jusqu'à la 32e génération, cependant. Mais donc j'ai regardé si leur origine ethnique est celle de leurs parents. Et donc j'ai fait un tri sur cette base-là. Et alors, ça soulève effectivement quelque chose d'assez intéressant, parce que dans une des expériences que j'ai faites, notamment voir à quel point est-ce que ce sentiment d'intégration qu'on pouvait, enfin cette estimation du niveau d'intégration qu'on pouvait voir chez les prévenus, comment est-ce que ça se décline ça? Quand vous demandez, donc j'avais d'abord pris un échantillon dans lequel il y avait pas mal d'étudiants marocains. Et alors quand le prévenu se sentait coupable, je voyais pas du tout que quand il se sentait coupable, il était perçu comme plus intégré à la société belge. Et que par contre, quand j'enlève tous les étudiants d'origine marocaine de l'échantillon, là je le vois clairement. Mais si je regarde ce que répondent les étudiants d'origine marocaine, pour eux, c'est un prévenu qui ne se sent pas coupable, qui est considéré comme plus intégré à la société belge. Parce que pour un Marocain, il est tout à fait normal de se sentir coupable. Et j'ai bien parlé de sentiment de culpabilité et pas d'expression de la culpabilité. Là, il peut y avoir une différence culturelle. Mais au niveau du sentiment de culpabilité, les Marocains considèrent que les Marocains se sentent coupables. Et c'est pas du tout contre-normatif pour eux, et c'est pas du tout quelque chose qui montre une intégration plus vers le côté de la Belgique qu'autre chose. Donc oui, ça a été tenu en compte, et il y a effectivement des résultats intéressants qui ressortent de cette
donc,
analyse.
C'est sur cette base-là, et c'est en cela que ça rejoint aussi à la réflexion ennemie, quand vous parlez notamment de la procédure pénale qui ménage des règles qui sont censées précisément parler au risque à ce biais, en réalité, qui est impliqué par le sentiment, éventuellement, et je ne connais pas du tout la représentativité des personnes issues de l'immigration. Je ne connais pas du tout la représentativité au niveau du corps de la magistrature.
Ah oui.
C'est aussi un élément qui, dans le cadre de la structure judiciaire belge, pourrait aussi être pertinent et être éventuellement influencé dans les années à venir.
Bien sûr. Mais tout ça.
Est en cours.
Il y en a beaucoup. Écoutez, quand j'étais à votre place, je n'en voyais pas à l'université. J'ai commencé à en voir un petit peu au barreau, des avocats d'origine nord-africaine. J'ai deux enfants inspecteurs de police. La police est pleine de Nord-Africains. Et c'est tant mieux. Et elle ne pourrait pas fonctionner sans ces Belges d'origine Nord-Africaine. La police
a été beaucoup plus rapide sur la balle que la magistrature. Mais je crois que ça s'explique, on sort de notre sujet, mais ça peut s'expliquer. D'abord parce que pour devenir avocat et magistrat, il faut passer par l'université. Et que l'université est un terrible tamis social. Terrible tamis social. On parle d'ouverture, mais tant que, je ne vois pas comment on ferait autrement, tant que n'arrive à l'université que les gens issus d'une certaine classe sociale, quelques pourcents de la population, vous aurez toujours cette difficulté pour les gens venus d'ailleurs de passer par l'université, et surtout venus d'ailleurs par l'immigration du travail, de passer par l'université pour accéder aux gens de profession dont on parle. Mais ça arrive, ne vous en faites pas. C'est vrai que ça tarde, mais ça viendra.
Ça viendra. Pour continuer la réponse à Ennemi et pour vous répondre aussi, je pense que la nécessité d'amener à ces positions des femmes, des personnes de quelle que soit leur origine, etc., il y a plus une question de non-discrimination à l'emploi qu'une question de vouloir ramener de l'erreur et des processus comme ça. Je crois que de toute façon, on a intérêt, quelle que soit la profession, à accepter une diversité importante, justement pour une question de droit, quoi, et d'égalité face au droit.
C'est tout. Oui, non, ici c'est vraiment sur la question précise de savoir si ça peut effectivement avoir des influences sur la peine encourue, enfin prononcée.
Oui, sans doute.
Au terme d'un procès, c'est juste.
Mais oui, sans doute. Mais il faut relever ce pari et il faut faire en sorte que les influences inconscientes soient marginales. Chez les personnes dont vous nous parlez, comme chez moi, comme chez d'autres, ici d'autres pays du monde, d'autres cultures du monde, et la seule manière de le faire, ce n'est pas multiplier tout type de préjugés dans une même chambre d'un tribunal, mais c'est de parier sur la culture, sur la rencontre, sur le voyage, sur la lecture, sur la multiculturalité et sur les apprentissages comme nous venons d'en avoir. Bien sûr que le juge, je l'ai dit tout à l'heure, éthéré, impartial. Il ne faut pas s'étonner qu'un juge soit pas totalement impartial. Moi, ça ne m'étonne pas. Il faut tendre vers le juge le moins partial possible. Les garanties de la procédure pénale sont déjà très importantes. Et puis, il y a tous les pièges dont on vient de parler maintenant et qui ne sont pas débusqués par des procédures en récusation et des choses comme ça, qui sont bien plus inconscients. Eh bien, cela, on y travaille par les rencontres, les leçons, les voyages, la connaissance de l'autre. Bien sûr.
Moi, j'avais deux remarques qui sont, enfin, des remarques questions, enfin, non, des remarques qui suscitent une réaction. La première, ça va poursuivre en fait ce qui a été dit, parce que j'entends bien l'idée que la procédure, et en particulier la procédure pénale, est là pour encadrer l'émotion, c'est-à-dire pour essayer quel est le rôle qu'elle doit, que les émotions aient le rôle qu'elles doivent avoir et pas un autre rôle ou un rôle qu'on ne voudrait pas leur donner. Le problème, c'est que vous avez parlé par exemple des émotions, enfin tu as parlé des émotions violentes en disant on essaye de se tenir à distance des émotions violentes, mais dans l'expérience, les expériences qui ont été explicitées, c'était justement pas des émotions particulièrement violentes. En l'occurrence, c'était des émotions ordinaire, peut-être des émotions de base, je dirais, et je trouve que dans le fait de croire que la procédure peut encadrer l'émotion, il y a la négation de l'inconscient, et d'une part, évidemment, l'inconscient au niveau des émotions, mais aussi d'autres types d'inconscient dont on est quand même... Tu disais par exemple, voilà, on leur demande de décrire de façon ordonnée les émotions. Donc pour pouvoir tout un chacun ici décrire de façon ordonnée nos émotions, il faut souvent peut-être 20 ans de psychothérapie pour y arriver, et on peut imaginer que des gens qui sont, comme tu disais, soit dans une situation sociale déjà socioculturelle déjà plus ou moins défavorisée, c'est encore plus difficile, mais ensuite en plus dans une situation comme celle d'un tribunal quand on est accusé de quelque chose, où là forcément ordonner l'émotion, ça paraît quand même assez presque un vœu pieux.
Donc ça, c'est un vœu pieux.
Donc ça, c'était la première remarque, mais elle rebondit sur la question de savoir si est-ce que en multipliant les préjugés ou en multipliant les stéréotypes, on les annule. En quelque sorte, on arrive en tout cas à équilibrer l'injustice dont les stéréotypes peuvent être porteurs. Si on veut être concret, il y a deux solutions. Ou bien on plaide pour des magistrats professionnels et on va faire des quotas. Il n'y a pas d'autre solution. On fait des quotas de femmes, on fait des quotas de magistrats issus de l'immigration, on multiplie les points de vue avec toujours ce risque qu'évidemment on ne va pas être exhaustif dans les quotas qu'il faudrait avoir et puis ça va être difficile de les cibler. Soit on revient à la justice populaire, parce qu'en réalité, le jury populaire, c'était la question qui a été posée, c'est une solution à la question des stéréotypes. C'est une solution qui ne dit pas ce jury a tel ou tel stéréotype, c'est une solution qui dit tout le monde a des stéréotypes, donc ça prend en compte les biais cognitifs inévitables, tout le monde a des stéréotypes, mais on ne veut pas les connaître, et on va essayer de faire une justice qui ne sera pas forcément couper des émotions ou couper des stéréotypes, mais simplement qui va être représentative d'une certaine société démocratique à un moment donné. C'est ça, en l'occurrence, qui est, je ne défends pas ici spécifiquement, mais en réalité, le jury populaire, c'est quand même de ça qu'il s'agit. C'est une solution au problème du stéréotype du magistrat professionnel. Parce que plus on professionnalise la magistrature, plus les stéréotypes vont être actifs, propres au magistrat. Parce que plus on professionnalise, plus ça va être des gens qui ont fait des études, donc des gens qui viennent d'une certaine classe sociale. Plus on va professionnaliser, plus on va avoir des blancs ou des belges d'origine belge. Plus on professionnalise, plus en fait on va reproduire un stéréotype de classe. Donc ça, c'était un peu ma question. Est-ce que vous voyez d'autres solutions entre le quota et le jury populaire, à part effectivement la formation et l'éducation? Mais la formation et l'éducation, on ne peut pas dire... On ne va pas briser un tabou ici, mais quand même, on ne peut pas dire que dans les études de droit et la façon dont elles sont organisées, on ne reproduise pas des stéréotypes. On en reproduit sans cesse. Dans la façon dont on présente le droit, la façon dont on présente la magistrature, la façon dont on présente les avocats, etc. Donc, si on veut dénoncer ou mettre le doigt sur des stéréotypes, je crains qu'il faille plus qu'une formation de psychologie à l'intention de nos études. Et alors... ma deuxième question, et ça c'était plus une question en réaction à... J'y avais pas pensé en fait en écoutant la partie de Christophe, mais quand je voyais ce que Patrick disait, j'y ai pensé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Il ne faut pas non plus tout à fait gommer la dimension normative quand même de tout ce qui a été dit ce soir, et la dimension normative des émotions en particulier. Parce que il y a quand même une différence entre décrire ici un processus cognitif et l'impact des émotions sur ce processus, éventuellement prendre conscience de la dimension psychologique au sens le plus large d'une décision ou d'une attitude, d'un comportement. Ça c'est une chose, mais ça me semble très différent du fait de vouloir utiliser les normes psychologiques, par exemple pour sélectionner les magistrats, ou par exemple pour dire qui doit juger, comment juger, qu'est-ce que bien juger. Or, ce que tu évoquais, à savoir des tests, c'était quoi, analytiques, psychoanalytiques à l'entrée du concours de la magistrature, c'est autre chose.
Cognitif-analytique. Et un questionnaire de personnalité.
Ou un questionnaire de personnalité. Ici, il s'agit de départager entre des candidats sur des bases d'analyse du mode cognitif. Et ce qui m'inquiète, en fait, dans ce type d'expérience, même si je pense qu'elle est très très utile, effectivement, pour prendre conscience d'un processus, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle produit immédiatement de la normativité, que ce soit celle qui est celle que proposait Anomi, à savoir, ah, mais alors, puisque c'est comme ça, on doit multiplier les stéréotypes, donc ça produit de qu'est-ce qu'on devrait faire. Oui. Ou encore, quand on utilise effectivement l'analyse des stéréotypes ou des manières de penser pour sélectionner les magistrats. Je ne dis pas que c'est inutile, je ne dis pas que ça ne doit pas être, mais je trouve que ça peut être problématique et que je pense qu'il faut se méfier sur le statut épistémologique du discours qui est tenu sur les émotions.
Le test cognitif analytique, dit le moniteur, et le questionnaire de personnalité ne sont pas éliminatoires. On t'a entendu. Mais s'ils sont organisés, ils serviront organisés, uniquement de sources complémentaires d'informations. Pour la partie orale, les informations issues des résultats des tests psychologiques sont validées par un psychologue après une discussion avec le candidat. Donc, on a entendu taire.
des précautions.
Mais je ne dis pas, peut-être ça peut être normal, peut-être que ça a un certain sens de déceler chez des candidats magistrats des dérives ou des déviances possibles dans les réflexions. Oui. Psychologique, je crois que c'est tout à fait légitime. Je dis juste que c'est pas la même chose de faire ça et que de décrire un processus cognitif.
Non, bien sûr.
Et que le passage de l'un à l'autre, comme on est en train de le faire ici, il faut le faire en conscience de ce qu'on est en train de dire.
Si je peux rebondir sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce genre de résultat, on n'a aucune idée ni de la manière dont ça s'applique sur le terrain, ni même de la taille de l'effet, hein, parce que si c'est pour chipoter alors qu'on donne pour un fait X ou Y 5 ans ou 5 ans et 2 semaines parce qu'il y a les émotions, c'est pas pour les 2 semaines que ça va avoir qu'il faut aller bouleverser les pratiques. Maintenant, quand tu parles du jury, dans le jury pose d'autres problèmes aussi. Par exemple, les problèmes de dynamique de groupe, de polarisation, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui sous-tendent un fonctionnement de groupe et qui doivent aussi être prises en compte. Donc, de toute façon, on va tomber dans du biais humain. Ça c'est bien clair. Et quand, encore une fois, revenir à cette idée de faire varier les stéréotypes, si vous voulez condamner très sévèrement un Nord-Africain, mettez un autre Nord-Africain pour le condamner. Parce que un des processus qui est fort probablement activé à ce moment-là, c'est « voilà comment il représente mon groupe, celui-là. Il délinque, et moi, là-dedans, on me perçoit mal parce que lui, il délinque. Il va voir ce qu'il va prendre. » Je ne parle pas d'un magistrat, mais si vous entendez dans la population tout venant, ça c'est un mécanisme qui existe très, très fréquemment, qui peut avoir l'effet inverse de l'effet escompté. Et vous avez même l'inverse, des gens qui, parce qu'il y a des Nord-Africains, on va être plus clément. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans mes résultats. Hein. La peine la moins élevée, ce sont les Maghrébins qui se comportent normativement. Hein. Ils sont moins condamnés que la plus petite condamnation qu'on donne à un Belge. Hein. Donc voilà, il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Et de toute façon, maintenant, quelle que soit la réaction qu'on adopte, je pense que de toute façon, il y a des effets pervers qui sont tous imprévisibles. Et que donc, je pense aussi que la sensibilisation reste actuellement, en tout cas, la meilleure, la meilleure réponse.
Moi, je pense aussi. Et pour le parier sur l'éducation, parier sur la connaissance. Et pour les tenants du cumul des idées préconçues, je dirais tout de même que dans la chaîne pénale, aboutit à un jugement toute une série de travail de magistrats différents, qui ne sont pas tous les mêmes. Le procureur du roi qui met ou qui ne met pas l'instruction, après le policier qui constate quoi. Et pourquoi ? Là aussi, il y a des études importantes sur « on en voit certains, on n'en voit pas d'autres ». Le procureur du roi qui met à l'instruction, qui ne le met pas, qui demande un mandat d'arrêt. Le juge d'instruction, autre personne, la chambre des mises en accusation après la chambre du conseil. Voilà encore un juge en chambre du conseil, des juges en chambre des mises en accusation, en première instance, en appel. Donc il y a tout de même beaucoup de juges, avec chacun leur stéréotype différent sans doute, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des homosexuels, des hétérosexuels, des gens issus de l'immigration maintenant et heureusement d'autres qui ne le sont pas, qui concourent au jugement de quelqu'un. Le jugement de quelqu'un, ce n'est pas simplement les stéréotypes du dernier juge qui prononce. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je crois que tu as raison, et puis je me tairai. Bien sûr que je n'ai pas dit que ma procédure pénale suffisait à chasser tous les stéréotypes. Mais la procédure pénale se méfie des stéréotypes, se méfie des idées préconçues. Et même si à côté de celles qu'elle chasse de la manière que j'ai décrite un peu trop brièvement, il y en a d'autres. C'est ce qu'on a encore dit ce soir.
Il y a encore une question ici et une autre là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore à part ces deux questions ? Mais ça, on prend toutes les questions pour vous laisser répondre vu qu'il reste un petit quart d'heure.
Oui, merci pour vos exposés et dans vos discussions aussi. Il me semble qu'il y a un acteur de la justice qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est justement l'expert en psychologie, auquel on a de plus en plus recours dans un tas de contentieux, hein, familial aussi. Et je me demandais si, d'une part, le fait qu'on ait supprimé les formations en psychologie dans le cadre de la formation judiciaire était lié au fait que finalement, on se dit, pour essayer d'éviter de se débarrasser du stéréotype en tout genre, on fait appel soi-disant à un expert qui soi-disant est beaucoup plus conscient des biais et donc et avec tous les autres problèmes que ça suscite, c'est-à-dire, je sais pas, les quelques échos de psychologues qui sont amenés comme experts à témoigner en justice sont des échos assez inquiets, préoccupés, assez mal à l'aise. En fait, moi, mon impression, c'était que les psychologues étaient assez mal à l'aise parce qu'ils sentent une certaine instrumentalisation, parfois, de la justice, ou qu'il y a pas mal de magistrats qui disent, voilà, dans des affaires de garde, de garde parentale, ce genre de choses, on suit toujours, tel type de magistrat suivra toujours l'avis du psychologue, de manière un peu quasi automatique. Et donc, je me demandais si vous aviez, de par vos expériences ou même la salle, des témoignages intéressants ou des réflexions intéressantes à ce sujet.
Je prends une deuxième question, puis vous répondez. Bonsoir. Moi, je suis psychologue, je ne suis pas psychologue, mais je me demandais si les émotions, plutôt que d'être vues uniquement comme un biais cognitif, ne pouvaient pas être également un appui au jugement. Les magistrats du Conseil d'État, et je ne suis pas du tout intéressée aux émotions, mais je suis intéressée à des indices très concrets et routiniers qui leur permettaient de construire leur jugement de manière processuelle. Et finalement, je me dis que dans la sphère judiciaire, les émotions pourraient également servir d'appui au jugement, parce que, par exemple, vous parliez tous les deux de deux extrêmes, les émotions qui sortent trop violemment, ou au contraire, un comportement empathique qui interroge aussi. Donc je me demandais s'il y avait une certaine attente normative, ou en tout cas une certaine normalité des émotions, qui est en tout cas le magistrat à prendre sa décision en catégorisant le prévenu, ce final par exemple, en disant il a un comportement qui est normal et donc ça m'aide à poser mon jugement. Et c'est pas simplement un stéréotype qui doit être effacé, c'est une manière de catégoriser les gens qui est une manière plus de sens commun, peut-être qu'une manière psychologique.
Bien sûr. Peut-être pour vous répondre aux deux partiellement. Je suis d'accord avec vous, sauf que quand vous êtes dans l'expression des émotions peut encore une fois être variée selon la culture. Si vous assistez à un enterrement au Japon ou alors en Sicile, dans un cas on engage des pleureuses, dans l'autre cas il n'y a personne qui dit un mot. Donc qu'est-ce qu'un comportement normal? Un comportement normal n'est normal que par rapport à notre culture. Et donc ça, alors on pourrait se dire, ok, dans ce cas-là, bien d'accord avec vous. Dans l'autre cas, mais non, bon, est-ce qu'on doit accepter que les comportements soient culturellement imprimés et que des comportements complètement qui appartiennent tout à fait à une autre culture, est-ce qu'on doit les accepter? Ça, j'en sais rien, moi, mais en tout cas, ce qui m'apparaît assez clairement, c'est que ça peut vraiment être impacté par la culture. Et donc, comment est-ce qu'on gère ça? Pour moi, c'est là la source de biais, avec l'idée de dire, c'est normal, donc j'en tiens compte. Et quant aux experts en psychologie, je crois que je vais être critique si je parle des experts en psychologie, parce que vous devez vous rendre compte de ce que c'est que les sciences humaines expérimentales. Quand on a un effet qui arrive dans 70% des cas, chez 70% des gens, c'est un effet monstrueusement robuste. C'est vraiment, on est très très content d'avoir ça. Ça veut dire que si en physique on faisait ça, et que 7 fois sur 10 ça tombe sur la table, et que 3 fois sur 10 on ne sait pas où ça va, alors on serait très content. Pour vous donner la différence entre la science dure et les sciences humaines. Donc un expert qui peut prendre en compte toute une série de variables, toute une série de critères, et poser un jugement relativement sûr sur une question, honnêtement je n'y crois pas. Et je ne sais pas si des gens vont chez des thérapeutes ici, mais si vous avez un thérapeute qui est entouré d'une cape magique et qui est sûr de lui et qui pense vraiment pouvoir vous aider, changez de thérapeute. C'est vraiment important, ça. Donc, il n'y a rien à faire. Étudier le cerveau humain avec un cerveau humain, on est limité. Je veux dire, il y a des limites, mais alors, des biais méthodologiques, des limitations...
C'est comme juger un humain par un humain.
Mais c'est ça, c'est exactement la même chose. Donc on ne sortira pas de ce flou, ni en droit, ni en psychologie.
On essaie de faire mieux, quoi.
Voilà.
On essaie de faire mieux.
Non, mais c'est vrai que ce que disait l'artiste, c'est qu'il y a une tendance globale, et ce n'est pas assez sur les, c'est une décharge sur les experts en psychologie, mais sur les experts en général,
à décharger la responsabilité de la décision humaine et donc faillible sur des experts qui sont là parce qu'ils sont experts et qui donc auraient une réponse infaillible. C'est bien qu'elle ne l'est pas, mais il y a une... Ça peut être une tentation, je veux dire.
C'est une tentation. C'est une tentation, mais dans certains cas, pour répondre à la question, dans certains cas, comment pourrais-je faire autrement? Je dis bien dans certains cas, pas dans tous les cas. Je ne veux pas reporter ma responsabilité de juger, j'essaie de la prendre. Mais sur certaines questions, je ne peux que me tourner vers le spécialiste, même si vous me dites que le spécialiste n'est pas toujours très fiable. Mais en tout cas, moi, je ne le suis pas du tout. Une question, la démence. Savoir si une personne est ou non démente, était ou non responsable de ses actes. Moi, encore moins que vous.
Oui.
Et si quelqu'un a fait des études à ce sujet et qu'il peut m'éclairer, je lirai ses conclusions avec intérêt. Des tests de crédibilité d'un témoignage d'un enfant de 5 ans. Moi, encore moins que vous.
Je ne sais pas.
Ça m'intéresse ce qu'on me dit à ce niveau-là. Par contre, dans toute une série d'autres domaines, non.
Patrick, la parole de l'expert n'est pas analysée à l'état brut.
Non, pas du tout.
Elle est même soumise à la contradiction.
Bien sûr.
Et le juge n'a pas non plus de motif.
Bien sûr.
Et le juge est souvent un juge, enfin, et de moins en moins souvent, un juge multiple, un juge collégial.
Bien sûr.
Donc, je crois qu'il faut un peu dépasser cette manière un peu schématique de voir les choses. Tu l'as dit aussi, le jugement est un processus complexe, multiple, qui au fond dialectique, d'une certaine manière. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
C'est vrai.
D'ailleurs, je crois qu'il y a un chef-d'œuvre en péril dans notre procédure pénale, c'est la collégialité.
C'est vrai. Alors,
tu as évoqué des tas de choses importantes, mais la collégialité. Même la Cour européenne des droits de l'homme, maintenant. Plus
de 14, tu as raison.
Décision non motivée d'un juge unique. Est-ce que je peux, Julie, profiter de ce
rapport? Il y a deux questions.
Pour évoquer rapidement une chose, c'est la notion de manipulation que vous avez abordée, mais un peu, à la fin de votre exposé. Et moi, j'ai reçu votre très intéressant exposé comme analysant l'expression des émotions des uns et des autres, comme étant chaque fois des émotions sincères. Or, je crois, enfin, je ne suis pas criminologue, je ne suis pas sociologue, je fais du droit public et la Constitution, ça n'a pas beaucoup d'émotions. Il y a quand même une notion de manipulation, et je crois que beaucoup, ce que j'entends dire, disent que un délinquant est souvent un manipulateur. Et donc, là, je rejoins assez bien la toute première intervention de mademoiselle tout à l'heure. Il est important pour un juge de savoir qu'il y a des émotions, et de savoir qu'il en a lui-même, et de savoir que son collègue, avec lequel peut-être on ne s'entend pas, autre émotion interactive en est également. Et donc, on doit pouvoir analyser ce mécanisme-là comme étant un des facteurs qu'il doit juger parmi d'autres.
Il y avait quand même une réaction là-bas. C'est la tralade dernière, puis je vous laisse clôturer et puis on arrête parce qu'il est presque.
C'est plutôt une petite remarque en passant. On parle d'experts, on parle d'avis, on parle d'ajouter quoi que ce soit à la formation des juristes. Mais quel processus peut-on utiliser pour pouvoir discriminer ou pas un expert qu'on voudrait invoquer? Si on parle de la démence, est-ce qu'on va aller chercher un foucaldien qui a parlé de l'institution psychiatrique, ou est-ce qu'on va aller chercher d'un pratiquant qui, tout ce qu'il fait, c'est donner des chemicals chimiques à tout bout de champ? Quel biais va pouvoir mobiliser le juge pour dire tel collège de personnes peut être constitué vis-à-vis de moi et je pourrais suivre son avis ou du moins le consulter? Il y a des biais qui se situent à ce moment-là, il y a des biais qui peuvent se situer aussi dans la compréhension d'une certaine positivité du droit. Enfin, c'est infecté de biais, j'ai eu l'impression, peut-être pour ressembler, retomber sur la remarque de madame, faire avec.
Bien sûr. Juste là. Pas simplement faire avec, améliorer le tout aussi.
C'était un peu ma question sur la normativité. Parce que si on prend l'expert psychiatrique ou psychologique, il produit un discours qui se veut scientifique, d'accord, et qui est en fait ultra normatif. C'est un peu cette question. je ne dis pas qu'il ne faut pas ou qu'on peut faire autrement, je dis juste qu'on ne peut pas tout à fait évacuer cette question-là et ce problème-là. Et le fait que selon qui est telle école psychologique à laquelle, ou psychanalytique, ou psychothérapeutique à laquelle il appartient, il ne va pas du tout produire le même discours et la même analyse.
Pour une idée préconçue dans le champ de l'expert. Mais les choses vont mieux qu'au moment de l'acquisition. Revoyez le nom de la rose, on a un peu progressé.
Ouf, c'est une super belle conclusion. La prochaine séance du séminaire a lieu le 3 décembre, à la même heure, au même endroit, et elle est consacrée à la figure de l'arbitre dans le sport et la question de savoir si on peut comparer ou non le juge à un arbitre.
Vous moins d'un mot. C'est bien. Vous avez aussi venir comme vous êtes. Moi, je suis généralement comme ça. Alors, j'ai vu Julie ce midi au restaurant par hasard. Je lui ai dit, je vais quand même mettre un veston. Alors, avec toute la peur de perdre sa crédibilité à l'envers, évidemment. On ne croit plus de mettre un guerrier comme vous l'êtes généralement.
Et puis, je me suis dit, mais en fait, je profite de l'aura du psychologue.
Vous avez votre crédibilité si vous voulez bien la vie.
Oui, c'est ça.
Comme quoi